Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL et demain 5 avril. Cela fera 10 ans qu'Anne Hidalgo est officiellement maire de Paris. On fait le bilan. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
C'est la victoire du respect. Le respect des Parisiens. Rencontrer, écouter, consulter, quel que soit leur parcours, leur sensibilité, leur orientation. Je veux vous dire, avec une très grande émotion, la joie et la responsabilité que je ressens ce soir. Je remercie bien sûr chaleureusement les électrices et les électeurs qui ont su se mobiliser dans tous les arrondissements pour que la gauche et l'écologie restent à Paris porteuses de nos espérances.
Cela fera 10 ans demain. Anne Hidalgo devenait maire de Paris. En une décennie, elle a lancé tant de projets, révolutionné le paysage de la capitale française, la positionnant sur le chemin des JO 2024. Mais surtout, Anne Hidalgo a affronté de nombreuses polémiques. Ce soir, avec nos invités, on fait le point. Christophe Barbier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste politique, merci d'être avec nous. Ça va vous intéresser tout de suite le sujet Anne Hidalgo, vous nous avez dit oui tout de suite.
Ah oui, je trouve que c'est un moment politique et une figure politique qui dit beaucoup de notre 21e siècle. Parce qu'elle est très contestable dans ses méthodes, elle est assez visionnaire dans ce qu'elle pense de la ville du futur.
C'est juste.
Et puis par son destin. Maire de Paris, candidate malheureuse à la présidentielle, extrêmement attaquée, revenue du diable Vauvert à la dernière municipale.
Bon, vous n'avez pas fait toute l'émission avant l'heure, là. Hein. Et puis, on va présenter aussi votre voisin. Bonsoir, Olivier Bosse.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes chef du service politique à RTL. On vous écoute, évidemment, en plus, tous les dimanches, le grand jury RTL, le Figaro, M6. Vous l'avez reçu, Anne Hidalgo?
Pas depuis un an et demi, depuis
D'accord.
que je présente l'émission. Non.
Elle est comment?
Et c'est pas à défaut de l'avoir invitée régulièrement.
Et alors, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas?
Je pense que vis-à-vis d'RTL, c'est pas forcément le plus simple, parce qu'il y a des fois, dans des éditos le matin, etc., on n'a pas toujours été très aimable avec elle. Mais on va y revenir. Mais c'est quelqu'un qui, quand elle est face à des contradictions, des contradicteurs, etc., est pas toujours très très à l'aise. Le dernier grand jury qu'elle avait fait, c'était avec mon prédécesseur Benjamin Sportouche, et ça s'était pas très bien passé.
Bon, on va faire le bilan, rentrer dans le détail. Il y a quelque chose quand même concernant Anne Hidalgo qui est intéressant, c'est que c'est une femme, une mère de Paris qui suscite les passions. Comme s'il était difficile, Christophe Barbier, d'en parler avec objectivité. Comme si aujourd'hui, en fait, on répondait sur Anne Hidalgo d'une façon épidermique. On va essayer d'être les plus factuels hein, ce soir et les plus justes. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer justement qu'elle déchaîne les passions à ce point-là?
D'abord, je pense parce qu'elle est elle-même une femme assez passionnelle. Hein. C'est,
ouais.
c'est une ibérique au sang chaud et son parcours politique a été un parcours fait d'engagement passionnel, sinon elle n'y serait pas arrivée. Ensuite, parce qu'elle incarne la première femme maire de Paris, elle a su garder la capitale à gauche, ce qui n'était pas acquis. Et puis, elle a eu une ambition suprême qui était d'arriver à l'Élysée, donc ça a accru les tensions, y compris dans son propre camp. Et puis enfin, la manière qu'elle a de gérer les affaires publiques n'est pas une manière consensuelle. Ce n'est pas une manière où elle attend d'avoir mis tout le monde d'accord pour prendre une décision. C'est quelqu'un qui ouvre des brèches et qui assume derrière de ramasser les dégâts, de ramasser les débris.
Mmh. On peut saluer sa ténacité aussi.
On peut saluer sa ténacité, on peut critiquer sa brutalité, on peut considérer avec assez d'admiration sa résilience.
Absolument.
On peut critiquer son entêtement. Vous voyez, il y a deux côtés à cette médaille de Paris.
Olivier Bosse.
Au-delà de sa personnalité, il y a aussi Paris qui joue beaucoup là-dessus. Paris, c'est passionnel par définition. Chacun a un avis sur Paris. Des gens vivent à Paris, des gens viennent travailler à Paris, des gens traversent Paris, des gens viennent faire du tourisme à Paris. Et chacun a une vision de Paris, voudrait, a une vision même carrément souvent idéalisée de Paris et qui correspond surtout pas à ce que peut décrire ou ce que veut Anne Hidalgo.
On va y revenir, évidemment, pendant toute cette émission. Pour schématiser, elle est adorée des cyclistes, elle est détestée des automobilistes. Son réaménagement de Paris est absolument titanesque. À ce jour, il y a encore 6366 chantiers en cours dans la capitale quand je vous parle. Est-ce qu'on dira la même chose? Est-ce qu'on va y mettre les mêmes critiques sur Anne Hidalgo dans plusieurs années quand les travaux de la ville seront achevés? Christophe Barbier.
Ceux qui auront connu l'époque garderont un esprit critique et se diront quand même c'était dur, c'était violent. Les chantiers, en effet, interminables, la manière de fonctionner, les moments difficiles traversés par cette capitale. On se souvient de la grève des éboueurs. On va peut-être avoir un souvenir des Jeux Olympiques avec une vie quotidienne difficile. Les trous partout dans la chaussée avec circulation improbable.
Ou pas, enfin.
Parce que ceux qui l'auront vécu,
d'accord,
ne l'oublieront pas.
Okay.
En revanche, ceux qui arriveront plus tard dans une capitale qui aura été modernisée à marche forcée par Anne Hidalgo se diront ben, « elle a fait le boulot avant tout le monde ». Néanmoins, quand même, ça mérite analyse critique. Parce que pour ses successeurs, la manière de procéder sera importante. Et puis il y a quand même des choses qui vont rester au bilan. On a moins d'habitants qu'avant, 120 000 habitants.
Moins 123 000 en un an.
C'est beaucoup. C'est beaucoup.
En 10 ans.
Et puis la dette. La dette. Ça restera quand même dans un bilan. Je ne suis pas sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça soit complètement effacé.
Olivier Basse.
Si on regarde d'autres grandes villes, alors pas aussi grandes, hein, mais qui ont été largement transformées, je pense spontanément à Bordeaux par exemple, qui a été un chantier invraisemblable au début des années 2000 et en pleine réélection d'Alain Juppé. À la fin, il reste une ville transformée avec infiniment moins de critiques et c'est effectivement une et question de méthode. Pourtant, Alain Juppé n'a pas pris de pincettes ni quoi que ce soit. Il a imposé un réaménagement total. Il a fait disparaître également la voiture de manière aussi brutale qu'à Paris. Simplement, il y avait effectivement une façon d'aborder les choses et une personnalité différente. Et après, sur le bilan, pour moi, le bilan, il a déjà commencé à s'installer. Et notamment, par exemple, si on prend le cas des voies sur berge. Quand on repense et quand on relit, je me suis replongé un tout petit peu dedans, sur les critiques de l'époque et sur les discours des uns et des autres, finalement, c'est déjà acquis que c'était une avancée pour la ville.
Exactement.
Et que toutes ces critiques-là sont déjà effacées. Et donc, le bilan est déjà dans le dur.
Est-ce
pour une partie de ce qu'a fait Anne Hidalgo.
Pas justement récupérer les lauriers de tout ça et les recevoir dans quelques années, échéance 2026. Non mais, vous verriez la tête de mes deux invités.
Non,
on était à la radio, vous pouvez pas le voir. Oui, non mais moi je m'interroge parce que je me dis toujours, en fait, on fait la gueule quand c'est le bordel, mais enfin à un moment donné, est-ce qu'on va pas être satisfait d'une ville du futur? Vous avez plein de choses à rajouter, mais on va se retrouver dans un instant parce qu'on a une heure à passer ensemble. Cela fera donc 10 ans demain qu'Anne Hidalgo est devenue officiellement maire de Paris. Je le disais, elle divise. Les réactions à son endroit sont parfois émotionnelles. Et ben nous, on va essayer ce soir de poser les choses et d'établir un bilan objectif avec nos invités. Très en forme. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Olivier Bost et Christophe Barbier sont nos invités aujourd'hui pour essayer et tenter de dresser le bilan donc de ces 10 ans passés à la tête de l'hôtel de ville de Paris par Anne Hidalgo. Un an avant le terme de son mandat, son prédécesseur et mentor Bertrand Delanoë bénéficiait de 60% d'opinions favorables. Anne Hidalgo, Olivier Bost, est-ce qu'elle s'est inscrite aussi dans les pas et dans ses pas en termes de gestion de la mairie de Paris?
Non, ça pas. Il n'y a pas de comparaison possible parce que Bertrand Delanoë avait créé une relation avec les Parisiens très très différente. C'est-à-dire qu'il y avait eu une alternance et c'était créé au fil du mandat, à la fois parce qu'il a pu réaliser, qui parfois a été aussi contesté, les couloirs de bus, etc. Il avait eu le droit à son lot de polémiques. Mais en revanche, il avait créé un certain nombre de choses, d'événements, la nuit blanche, etc., qui avait créé un rapport avec les Parisiens qui était extrêmement différent. Et puis surtout, vous parliez de la fin de son mandat, ça n'avait absolument rien à voir parce que l'image de Bertrand Delanoë n'était pas abîmée. L'image d'Anne Hidalgo est extrêmement abîmée. C'est pas compliqué, les sondeurs vous le diront sans aucun souci, dans les études d'opinion qu'ils réalisent, les Français détestent le plus Éric Zemmour, et en deuxième, c'est Anne Hidalgo. Donc c'est la personnalité politique la plus détestée, ce qui est un élément qui est totalement différent avec son prédécesseur.
C'est la première femme, vous le disiez, à la tête de l'hôtel de ville de Paris. Est-ce qu'elle a payé aussi le fait d'être une femme, Christophe Barbier?
Je ne crois pas. Honnêtement,
la tête des deux. Mais
honnêtement, je ne crois pas.
Je savais qu'en posant cette question-là, mais il fallait que je vous la pose, parce que c'est très juste.
Bien sûr,
c'est la première fois qu'une femme est à la tête quand même de la ville de Paris.
Exactement, ça s'est posé pour Edith Cresson à Matignon. La question
exactement.
Se pose aussi pour
Anne
Hidalgo,
facile.
L'hôtel de ville. Je ne le crois pas une minute.
D'accord.
Je
okay.
ne pense pas qu'Anne Hidalgo
est attaquée vraiment sur son bilan.
D'abord parce que sa manière de faire la politique n'était pas une manière qui cherchait à marquer sa différence.
Voilà. Ouais.
Par ailleurs, elle avait été maire de Paris par intérim pendant l'hospitalisation de Delanoë, assez tôt, hein, quand il avait été poignardé lors de la première nuit blanche. Et donc, elle avait déjà eu cette expérience et son style, on l'avait vu. Je ne crois absolument pas qu'elle ait pu être victime de misogynie, en tout cas pas plus que d'autres femmes politiques dans d'autres postes. Il n'y a pas eu un cas Hidalgo pour cela. Par ailleurs, elle-même, elle a construit une stratégie par l'impopularité. Moi, je me souviens de l'avoir vue en 2018. Elle était au fin fond des sondages. On se disait, ça y est, elle est fichue, la ville va changer. Les macronistes se voyaient déjà prendre Paris facilement. Je l'ai vue, un petit déjeuner à l'hôtel de ville, et j'ai vu à quel point elle se nourrissait de cette impopularité pour mieux préparer la phase suivante. Et là, je l'ai vue encore il y a quelques semaines, et j'ai retrouvé le même sentiment, en encore plus affûté. Rachida Dati venait d'être nommée ministre de la Culture, ouais. Tout le monde disait qu'Hidalgo allait finir en miettes après les Jeux Olympiques, et je l'ai vue commencer à se nourrir de cette impopularité.
Elle a besoin de ça ?
Pour préparer la phase suivante. C'est pas qu'il en a besoin, c'est qu'elle fait avec. Elle ne fait pas sans, elle ne le nie pas, elle ne l'écarte pas. Elle s'en nourrit pour attaquer ses adversaires, et mieux, pour diviser ses partisans et les rassembler derrière.
Donc il y a de la stratégie politique, derrière tout ça.
Fait.
Dans quel but ?
Dans le but de surprendre par sa capacité à revenir.
C'est ce que vous appelez la résilience.
C'est ce que j'appelle la résilience. Mais c'est une résilience très dynamique chez elle. Mmh. C'est une résilience très offensive. C'est pas la résilience de la miraculée qui a un coup de chance. Non. C'est une résilience qui passe à l'attaque.
Si on pouvait faire un tout petit parallèle, mais qui va pas plus loin que ça, mais c'est avec Jean-Luc Mélenchon, qui pareil joue sur la détestation des autres, s'en nourrit très largement pour derrière souder un camp et ensuite repartir à l'initiative. Et il avait une image aussi totalement déplorable avant la dernière élection présidentielle. Mmh. Et puis il est remonté. C'est un peu des stratégies similaires. Le fait d'être détesté les nourrit, comme le disait très bien.
C'est avec les cailloux de la lapidation que vous fabriquez la forteresse de demain.
Quelle horreur, cette lapidation en plus qui est dans l'actualité, voilà, et c'est absolument épouvantable.
La question portait sur la misogynie, ouais.
Exactement, en plus. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je me dis, quand on fait une révolution, on court toujours le risque d'être impopulaire. Quand elle a fêté ses 10 ans à l'hôtel de ville de Paris, elle a diffusé donc sur les réseaux sociaux une vidéo où elle se félicite des transformations qui ont été engagées dans la capitale depuis son arrivée. 40% de trafic automobile et de pollution en moins, 550 km de pistes cyclables supplémentaires, 150 000 arbres plantés, et elle répond aux polémiques par des chiffres et elle conclut par « on continue ». Eh bien justement, c'est exactement ce que vous étiez en train de souligner, Christophe Barbier. Est-ce qu'elle ne dessine pas là, au prix de son impopularité aussi, la ville du futur ? Parce qu'elle applique une véritable politique environnementale.
Oui, bien sûr. Elle va dans le sens de l'histoire. C'est incontestable.
Donc
le résultat sera sans doute une ville plus adaptée au XXIe siècle et à ses contraintes qu'aujourd'hui. Mais la politique, c'est pas seulement le résultat. C'est le chemin que vous empruntez. C'est la méthode, la manière dont vous entraînez les gens. Et de ce côté-là, et d'ailleurs dire « on continue avec autant de véhémence » l'illustre, il y a cet aspect à marche forcée qui non seulement la fâche avec beaucoup de citoyens et qui lui vaut cette impopularité, mais qui est quand même, là encore dans notre modernité, contestable. Il faut associer les gens, les convaincre, les entraîner, et pas les mettre devant le fait accompli et leur dire « ça va être dur pour vous pendant quelques mois, et puis vous y ferez ». Non, les voies sur berge, ça pouvait se préparer autrement. Les pistes cyclables imposées avec des blocs en béton, et puis après des trucs en plastique jaune pendant des mois, avant qu'on s'y habitue, c'est pas bien. Obliger les gens à se plier à une politique, je ne crois pas que ça soit si moderne. Même si le résultat, en effet, donne l'impression, et c'est une réalité, qu'elle va dans le sens de l'histoire.
Alors justement, on va écouter, si vous le voulez bien, certains Parisiens lorsqu'elle a décidé de fermer une partie de la rue de Rivoli aux voitures.
J'ai deux clientes le mois dernier et ce mois-ci qui m'ont dit « ben moi je viens de moins en moins puisque je ne peux pas m'arrêter, il n'y a pas de stationnement possible ».
Elle nous a bridés. J'ai pris une rue parallèle à la rue de Rivoli parce qu'on ne peut plus la prendre. J'ai mis 25 minutes à faire 300 mètres. Comment vous voulez travailler ? Elle a créé des chômeurs en plus à Paris.
Voilà, on vient d'entendre les Parisiens. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va parler de Paris, cette ville qui est effectivement en grande mutation, mais dont on dit qu'elle agonise aussi quelque part sous des bouchons qui sont interminables. Et ces fameux Parisiens, vous le disiez, qui quittent la ville, puisque 123 000 Parisiens ont décidé d'aller vivre ailleurs en 10 ans. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Christophe Barbier, Olivier Bost sont nos invités ce soir dans Jour J. Comment vous vous déplacez dans Paris, Christophe Barbier ? Vous êtes à vélo ou non ?
Ah, moi je suis en métro. À vélo, je serai écrasé au premier carrefour.
Ah,
c'est pas dû à la politique d'Hidalgo, c'est dû uniquement à ma distraction permanente.
D'accord, donc vous préférez vous en remettre au service de la RATP ?
Je m'en remets au service de la RATP. Et là encore, je constate qu'il y a un retard, c'est-à-dire qu'on chasse les gens de la voie routière pour les pousser à prendre les transports en commun. Ça aussi, c'est le sens de l'histoire.
Bah oui, c'est ça.
Et le service fourni par les transports en commun n'est pas à la hauteur.
Voilà, et c'est ce qu'on déplore.
On a des carences. Alors, c'est pas que la mairie de Paris, c'est la région, c'est le syndicat des transports, mais bien sûr, mais quand même. Et ça, ça crée parfois des soucis pour les Parisiens très, très ennuyeux.
Je vous ai jamais vu quitter RTL à vélo, Olivier Bost.
Je voyage à vélo.
Oui, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes horaires.
Non, ouais,
c'est pas vrai, donc votre vélo est garé à côté du mien, j'imagine.
Oui, ouais, possiblement. C'est dans le même parking, oui.
D'accord. Vous mettez un casque ou pas?
Oui, bien sûr.
D'accord, on est bien d'accord, parce que c'est impératif à Paris.
Vous n'avez pas peur à vélo dans Paris?
On t'expliquera. Il y a des pistes cyclables maintenant aussi, voilà, Christophe Barbier.
Ça reste en fait
550 km de pistes cyclables supplémentaires sous Anne Hidalgo. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous appréciez, Olivier Bost?
Oui, après, il y a encore beaucoup de travail à faire et toutes les promesses qu'avait fait Anne Hidalgo en la matière, par exemple, n'ont pas été tenues.
Ça n'est pas terminé.
C'est-à-dire que, oui, mais ça n'avait pas été tenu au précédent mandat et a priori, il ne reste pas assez de temps pour faire tout ce qu'elle avait annoncé.
Okay.
Donc, il reste beaucoup à faire, mais sans faire de militantisme pro vélo. Moi, je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut faire attention et qu'on n'a pas évoqué depuis le début de l'émission. Il faut faire attention à une chose, c'est que Anne Hidalgo fait une forme de localisme, c'est-à-dire qu'elle s'adresse, et ce qui est normal pour une élue, elle s'adresse à ses électeurs. Et il faut faire très attention à ce que tous les Français pensent d'Anne Hidalgo, effectivement, et avec son image, on en parlait, qui est déplorable, et les Parisiens qui vivent à Paris. Et aujourd'hui, 40% des foyers parisiens ont une voiture, ce qui veut dire que 60% des foyers, les foyers, pas les Parisiens, les foyers, ce qui veut dire que bah, globalement, aujourd'hui, quand on offre des transports en commun ou quand on fait du vélo, bah, ça répond à une demande. On vit tous dans un endroit qui est pollué, donc elle répond aussi à cette problématique de pollution. Et donc, elle s'adresse aux Parisiens, ce qui peut être considéré comme égoïste par rapport à tous les autres. Mais là, cette politique-là, et il y a une erreur qui a été faite par ses adversaires les deux fois, c'est une erreur d'analyse sur la sociologie parisienne, considérer que finalement tout le monde roulait en voiture et que tout le monde était très très embêté par les politiques que proposait Bertrand Delanoë et qu'elle proposait elle. Et ça, cette erreur-là, tel que ça se profile pour l'instant, elle pourrait être refaite en 2026.
C'est vrai qu'elle a fâché des automobilistes qui ne votaient pas à Paris.
Et ouais.
Voilà, donc de ce côté-là, il y a eu cette analyse sociologique, elle a servi ses électeurs, ce qui est de bonne guerre. Mais tout de même, elle a aussi, en favorisant le vélo, un peu oublié les piétons. Les autos sont un danger pour les vélos, mais les vélos sont devenus un danger pour certains piétons.
Et puis ça
là, ça méritait un peu plus de méthodologie.
Et puis ça ne veut pas dire que Paris est devenue une ville très belle et propre. Hein, donc il y a.
Alors justement, on va glisser progressivement vers la saleté. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que le but, l'objectif est louable, mais que la méthode employée n'est pas bonne et surtout, on n'aura pas offert assez d'alternatives finalement à ce projet pour que la ville puisse continuer à fonctionner normalement.
Et d'explications. Prenez l'exemple des 6000 et quelques chantiers. Il y a les très gros qui ont été des problèmes politiques.
Ouais.
La Tour Triangle, la Gare du Nord, Montparnasse, etc. D'énormes polémiques. Elle s'est un peu embourbée dans ces polémiques. Ça, c'est pour les plus gros chantiers. Et tous les petits chantiers. Qu'est-ce qu'un chantier à Paris? C'est pas des ouvriers qui construisent quelque chose. C'est un trou avec des barrières autour. Et puis on attend.
Ouais.
On attend des semaines et des semaines. Nul doute que c'est une nécessité. Il y a une conduite à réparer, il y a un trottoir aménagé. Mais là, encore une fois, c'est la méthode et l'explication qui ne vont pas.
La ville n'est plus aussi flamboyante qu'avant, Olivier Bost. C'est vrai que d'aucuns déplorent une ville sale. On a vu des vidéos de rats qui se baladaient dans les quartiers. Il y a eu, Christophe Barbier le soulignait, la grève des éboueurs aussi à Paris, qui a marqué en plus des crispations entre la mairie de Paris et le gouvernement. Enfin,
je pense qu'on vit aussi dans une nostalgie de Paris, alors, qui est une image fausse, qui est une carte postale. Quand vous reprenez les films des années 70 ou des images des années 80.
Ou même Woody Allen.
Énormément de voitures. Ouais. C'est pas beau partout. C'était aussi sale. Après, il y a une donnée aussi qu'il faut avoir en tête et qui est extrêmement importante et pour le coup jamais citée et souvent oubliée par les politiques, c'est qu'à Paris, il y a plus de 20 000 habitants au kilomètre carré, ce qui est absolument énorme. C'est la 7e capitale mondiale la plus dense. Et en Europe, par exemple, vous n'avez pas d'autre exemple de ville aussi dense. Et ça complique absolument tout, c'est-à-dire que quand il faut développer des transports, quand il faut vivre dans l'illusion qu'on pourrait tous se déplacer en voiture, etc., c'est impossible. Plus de 20 000 habitants au kilomètre carré, c'est un problème en soi qui rend tout problème à Paris, tout chantier, n'importe quoi, tout est compliqué. Et c'est une donnée qu'on n'a pas, et qui est surtout pas, qui concerne pas un certain nombre d'autres villes.
Ça fait combien de temps que vous vivez à Paris, Christophe Barbier?
Je suis arrivé en 1987.
Bon, alors donc vous êtes un vieux Parisien.
Oui. Je dis comme ça.
Depuis toutes ces années, ces décennies, vous avez vu Paris se transformer ?
Oui, bien sûr. Il y a des améliorations.
C'est-à-dire comment est-ce que vous pourriez décrire
Paris aujourd'hui ?
La décrue
du nombre de voitures et la lutte contre la pollution atmosphérique et sonore, ça, c'est... on a fait des progrès. Ouais. Et c'est dû en grande partie à la gauche et à Anne Hidalgo. Je pense qu'on a régressé sur d'autres pollutions. Je pense à la pollution visuelle. Malgré les efforts de la municipalité, les publicités, l'invasion de la pub, l'invasion aussi des trottoirs par les terrasses de café. Alors, ça part toujours d'un bon sentiment. Il y a la Covid, il faut les aider, on ouvre les terrasses, puis on ne recule jamais. Il faudrait reconquérir aussi cet espace libre, cet espace vide, qui est une sorte de silence pour les yeux dont on a besoin à Paris, puisqu'on ne créera pas d'autres espaces verts. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je trouve que le patrimoine a été protégé, mais pas assez valorisé, et que dans de nombreux endroits, le sens de la fête et d'un Paris festif a été perdu.
Alors, est-ce que ça c'est lié à la politique d'Anne Hidalgo ? On va y revenir dans un instant.
C'est un mélange, une politique nationale,
parce qu'on est
de sociologie
dans une société,
et de politique.
Vous avez parlé de la crise du Covid, on va parler de l'insécurité aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient expliquer que Paris n'est pas la même gueule aujourd'hui que celle qu'elle avait il y a 10 ans. Il s'est passé d'autres choses aussi qui peuvent avoir assombri la capitale. On se retrouve dans un instant avec vous sur cette antenne.
Près de 12 000 personnes quittent chaque année la capitale pour vivre en banlieue ou en province. Une tendance observée depuis 2011. Pollution, bruit, mais aussi prix de l'immobilier.
Comme cette femme, 123 000 Parisiens ont quitté Paris en 10 ans. Olivier Bost, Christophe Barbier, vous êtes nos invités. Est-ce que c'est un symptôme aussi de notre époque, cet appel à la campagne, suite aussi à la crise du Covid, ou est-ce que c'est vraiment parce que Paris est devenu invivable ? Christophe Barbier.
Il y a plein de facteurs.
Voilà.
Le coût de l'immobilier, quand on a 2 ou 3 enfants, ça devient impossible.
C'est
de
devenu très cher de
Bien
vivre
sûr,
à
c'est
Paris.
Devenu très très cher. L'aspiration des Français à une autre vie qu'on ne peut pas trouver à Paris. Il n'y a pas assez d'espace vert, il n'y a pas de nature, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. Donc si on veut cette qualité de vie, il faut partir. Ça, c'est plutôt des facteurs qui échappent au bilan de la municipalité. Mais il y a aussi des facteurs inhérents à la municipalité. Des problèmes de service, des problèmes d'ambiance. Cette ville est devenue plus difficile à vivre qu'avant. Et puis, je le disais avant la coupure, le festif. Delanoë a inventé la nuit blanche. En termes de fête, qu'a apporté Anne Hidalgo ? Les années longues ont apporté la fête de la musique. Qu'a apporté la décennie qu'on vient de traverser ? Alors, ça a été difficile. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les attentats. Franchement, l'esprit de fête, il en a pris un coup dans l'aile.
Il y a été assez estival.
Mais voilà, ça a manqué un petit peu d'imagination. Elle a prolongé ce qu'avait fait Delanoë, Paris-Plage, etc. Mais l'apport de Anne Hidalgo à un art de vivre parisien, j'ai du mal à le voir.
Olivier Bost.
Je suis tout à fait d'accord. On n'est pas capable de citer spontanément une création d'Anne Hidalgo sur ses 2 mandats. Je me trompe certainement. Elle a dû faire plein de choses. Mais d'un point de vue culturel, effectivement, ou en matière festive, je vois pas grand chose. Et ça manque d'élan de ce côté-là. Elle focalise tout sur 2 sujets. On en a très largement parlé.
L'écologie.
C'est la question de l'écologie.
Et
le deuxième, c'est, non, et le logement. Ah. Le logement social.
Ah, on y va.
Où elle développe le logement social. Si on veut être très sévère avec elle, on va dire que c'est aussi avec des visées électoralistes.
C'est-à-dire oui, mais le résultat est là.
Vous choisissez vos électeurs.
Mais Chirac aussi utilisait le logement pour faire plaisir aux amis.
C'est ça.
Oui, mais pour répondre à la crise du logement, c'est un peu avec une petite cuillère, parce que les prix immobiliers parisiens n'ont rien à voir avec une politique municipale. C'est un principe de marché. Et vous ne pouvez pas casser le marché en rachetant des immeubles, y compris dans des quartiers chics. Ça semble assez illusoire. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était peut-être aussi à viser électoraliste.
Alors, pour la partie sociale, voici les chiffres avancés par la mairie de Paris. 5 420 places créées en crèche. Le premier tarif de cantine à 13 centimes inchangé depuis 2014. 700 000 Parisiens qui vivent aujourd'hui dans un logement social. Christophe Barbier.
Oui, des actions aussi sur les loyers, sur ces choses-là. C'est une femme de gauche, elle mène une politique de gauche. Pour des raisons électoralistes, bien sûr, c'est son rôle, mais aussi par sa vision de ce que doit être la vie en ville aujourd'hui, ne pas trop enchasser les pauvres. Et là, elle lutte contre des marchés immobiliers et d'autres facteurs qui sont très puissants. Je pense qu'elle aurait pu développer un axe intéressant, puisqu'il y a maintenant le télétravail et qu'il y a plein de changements dans la manière de travailler, récupérer des bureaux pour les retransformer en logements, je pense que l'effort aurait pu être plus actif, en lien avec les propriétaires de ces bureaux, sans les contraindre. Je pense que là, elle aurait pu marquer un peu son époque.
Il y a une autre problématique qui est souvent avancée chez les insatisfaits, justement, d'Anne Hidalgo, c'est la sécurité. Une augmentation de la petite délinquance. C'est une réalité, ça, Olivier ?
C'est une réalité qu'elle a mis beaucoup de temps à découvrir pour finalement créer une police municipale non armée, qui, pour l'instant, a quand même encore du mal à s'inscrire dans le paysage et à montrer son efficacité. c'est vraiment quelque chose où il y a une prise de conscience tardive, rattrapée par la réalité, et avec un résultat absolument pas satisfaisant. Après, Paris est une ville, je le disais, très dense, qui concentre aussi, pour un certain nombre de raisons, des faits de délinquance, et avec une police nationale, pour le coup, qui n'est pas pléthorique, parce que beaucoup occupée à protéger, par exemple, rien qu'à la gare du Nord, vous avez un équivalent en nombre d'effectifs policiers qui représentent 4 arrondissements. Donc, il y a une spécificité parisienne, parce que ça concentre aussi des lieux de pouvoir, etc., qui fait que vous avez moins de policiers, globalement, sur la voie publique. Mais la réponse d'Anne Hidalgo en la matière n'a pas été satisfaisante non plus.
On pourrait y ajouter l'échec de la lutte contre le crack, hein, puisque là aussi, gouvernement
des
et municipalités sont à renvoyer dos à dos, mais on a déplacé le problème, on l'a chassé, on l'a pas réglé, avec derrière une querelle idéologique qui n'a pas été assez assumée dans le débat public. Est-ce qu'on veut accepter les toxicomanes et faire simplement de l'accompagnement médical, du suivi des salles de shoot, ou est-ce qu'on veut éradiquer la présence de la drogue dans la ville? Et là, ça va être au cœur, à mon avis, de la municipale prochaine.
Parce qu'il y a une autre dimension qu'il faut donner aussi, qui est importante, c'est que Paris est la capitale a un régime très spécial avec une préfecture de police qui est extrêmement puissante. Des rapports avec Anne Hidalgo qui n'ont pas été toujours simples. Alors ça dépend du préfet en place. Un coup ça se passe bien, un coup ça se passe moins bien. Et puis ça, même avec le même préfet, ça peut mal se passer. Donc il y a cette question-là où finalement la municipalité, pour le coup, et ça je le mets au compte d'Anne Hidalgo, a un pouvoir qui n'est pas plein et entier comme dans d'autres villes. Et donc il y a un rapport, y compris avec le gouvernement et avec les ministres, quasiment de conflits, et qui est vraiment une particularité parisienne, qui est aussi parce qu'on est dans un système ultra centralisé où le gouvernement et l'État a du mal à lâcher du pouvoir parce qu'elle considère que Paris est un statut à part.
D'accord, donc ça veut dire qu'elle n'a pas les coudées franches.
Non, sur le sujet de la sécurité, c'est une négociation permanente avec la préfecture de police.
Cette rivalité entre l'État, la préfecture et puis la maire de Paris, ça dure depuis au moins Étienne Marcel en 1356. Donc vous voyez, c'est pas d'hier qu'il y a cette querelle-là.
Anne Hidalgo n'était pas là.
Ce bras de fer avec l'État, elle le répercute aussi en étant dans une sorte de centralisme un peu autoritaire avec les arrondissements. Ça a été une maire jacobine, si j'ose dire, à son niveau. C'est pas la première, c'est peut-être un peu la nature de Paris.
Elle l'utilise. Ouais. Elle l'utilise beaucoup comme prétexte. Elle dit quand quelque chose fonctionne pas, c'est forcément la faute de l'État. C'est aussi pratique pour elle. Et après, je pense que ce rapport-là n'est pas forcément très très sain à la base. Il est certes ancien, mais aujourd'hui, c'est pas très moderne. En 2024, d'avoir des rapports comme ça entre un État et la première ville du pays, c'est pas très bien.
Bon, mais si on se retrouve dans un instant, est-ce que vous parliez de la flamboyance de Paris? Et moi, je vous ai répondu, il y a les JO aussi. Est-ce que ça ne va pas? Ah bah oui. Est-ce que ça va pas être la bonne surprise, quoi? Est-ce que c'est pas typiquement parisien aussi de se dire, attends, ça va être l'enfer, il faut se barrer, ça va être terrible. En tout cas, Anne Hidalgo, elle nous promet des JO historiques, festifs, pour faire rayonner la France et la ville de Paris. On en parlera dans un instant, et puis on ira faire un tour aussi au Conseil de Paris, parce que c'est vrai qu'il s'en passe et il s'en dit des choses, voilà, que l'on attend toujours avec délectation. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Paris va être magnifique, ne partez pas cet été. Ne partez pas, ça serait une connerie. Restez, ça va être absolument incroyable ce que vous allez vivre.
Christophe Barbier, qu'est-ce que vous imitez bien? Vous me faisiez le doublage d'Anne Hidalgo il y a un instant, qui expliquait qu'il ne faut pas quitter Paris au moment des JO parce que ce serait une connerie. Vous le faites très bien.
Oui, je recommencerai pas. C'est pas son meilleur moment oratoire, parce que c'est de la méthode couée. C'est de la méthode couée de dire aux gens, mais si, je vous promets, ça va être formidable, alors qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'angoisse. Néanmoins, je pense qu'elle a raison. Je pense que vivre des Jeux dans une ville, c'est énormément de contraintes et de difficultés, mais c'est un souvenir inoubliable.
Mais quelle audace d'amener Paris aux JO.
Je suis persuadé que tout le pessimisme d'aujourd'hui, ce côté cassandre, catastrophiste qu'ont les Français à l'heure en général, ça va se terminer par des jeux réussis.
Dont voilà,
on sera heureux et fiers. Je mets juste une question, parce que ça ne relève pas d'Anne Hidalgo, ni de moi, ni de personne, c'est le risque sécuritaire. Et à part ce risque-là, et peut-être le risque météo, pour le reste, je suis sûr que les organisateurs ont fait un très beau travail, que les bénévoles seront extraordinaires et que les jeux seront sublimes.
On a entendu la ministre Oudéa Castéra dire qu'il n'y avait pas de risque sécuritaire ou de menace terroriste sur les JO. C'est sa dernière déclaration.
Elle a dit d'autres bêtises.
Olivier Bost.
Ce qu'on vient d'entendre de la part d'Anne Hidalgo résume très bien la personnalité dont on parle depuis maintenant un petit moment. Parce que Anne Hidalgo, il faut s'en souvenir, ne voulait pas des Jeux Olympiques. On l'a totalement oublié. Il y a à peine 2 mois, elle disait que les transports ne seraient pas prêts. Et là, elle retourne. Elle a un culot parfois absolument monstre. C'est pas la seule à Paris, on va en parler probablement après, mais ça fait partie de son caractère et qui fait que bah finalement tout va être absolument génial, il faut absolument rester, ça va être un spectacle dingue, alors que elle ne participait pas, par exemple, à toutes les réunions de préparation sur les JO. Donc c'est vraiment très culotté de sa part, d'un seul coup, de changer comme ça et de dire ça va être absolument fabuleux. C'est important pour elle, hein, parce que les JO, il faut que ça se passe bien. C'est pas, il n'y a pas que pour elle pour qui ça doit bien se passer, mais c'est vraiment très important pour elle pour que ça se passe bien, parce que pour le coup, dans son bilan, ça va être quelque chose d'important.
Et je pense qu'elle le sait. J'invite quand même juste, petite parenthèse, tous nos auditeurs à écouter, s'ils ne l'ont pas déjà fait, toutes les émissions qu'on a consacrées justement aux JO à venir cet été à Paris, de jour J. C'est disponible en replay sur RTL.fr. Effectivement, nous avions évoqué le fait qu'Anne Hidalgo, dans un premier temps, avait affiché une posture radicalement contre l'organisation de ces Jeux Olympiques. Mais quelque part, la voici donc convaincue. Nous attend un été de rayonnement de Paris dans le monde entier, dont on pourrait... Christophe Barbier, en plus vous êtes régulièrement sur scène, donc ça ne m'étonne pas, mais vous, parfois vous avez, vous avez des réactions physiques. Oui. On se dit, mais il faudrait vraiment faire de la télévision radio, vous voyez ce que je veux dire avec vous.
La communication corporelle.
Exactement, non-verbal, mon cher. Et votre non-verbal me dit que vous émettez des doutes.
C'est pas seulement l'été 2024 qui se joue là. Est-ce qu'on aura une fête
mais
ou pas
une suite.
Fête c'est la suite. C'est une partie de l'avenir de Paris et un peu de l'image de la France. Si les Jeux sont réussis, on le sait, les retombées économiques par le tourisme va prospérer pendant des années, c'est la garantie pour Paris de franchir un cap, de retrouver un souffle, de redevenir peut-être une ville à la mode qui attire les foules, de retrouver peut-être aussi un peu de marge financière. C'est une ville très endettée. Donc si on rate les Jeux, on va le payer, et pas seulement parce qu'on n'aura peut-être pas rentabilisé tel ou tel équipement. On va le payer pendant des années parce qu'on risque d'être considéré comme une ville ringarde. Moi, je pense que ça ne sera pas le cas, qu'il y a tout pour réussir, y compris réussir le tableau des médailles françaises, et qu'on va en tirer les bénéfices sur le long terme, bien au-delà de la fin du mandat d'Anne Hidalgo, mais on ne le saura que fin août, début septembre.
Vous serez dans quelle équipe, vous, Christophe Barbier, pour nous ramener des médailles?
Alors, moi, je serai tournée théâtrale pendant l'été, donc je serai loin des Jeux. Mais j'irai voir, et c'est très important, j'irai voir des épreuves, et j'incite les auditeurs à le faire, des Jeux paralympiques.
Très bien.
Il y a encore de la billetterie disponible et on n'en parle pas assez des Jeux paralympiques. Fin août, début septembre.
Exactement. Olivier Bost.
Ce que je veux dire, c'est que la cérémonie d'ouverture qui peut sembler un peu mégalo et en fait a été construite pour donner une image de Paris magnifique et surtout pour donner envie. C'est une formidable occasion de relancer le tourisme sur Paris et de décupler le tourisme sur Paris. Et je trouve ça, moi, très intelligent, ce qui a été pensé et fait. Ça peut sembler mégalo, ça peut sembler risqué, ça peut être à la fin un tout petit peu moins bien, j'en sais rien, mais c'est les JO ont vraiment été pensés pour Paris et pour mettre en valeur Paris. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien.
D'aucuns attendent toujours le Conseil de Paris avec délectation, je le disais tout à l'heure, et la garantie que ça fuse. Alors, je ne sais pas si vous évoquiez la ministre de la Culture, Rachida Dati, en parlant de culot il y a un instant.
Totalement.
Voilà, très bien. Donc, on va l'entendre. Ça fuse toujours entre la maire de Paris et la maire du 7e arrondissement. Écoutez Rachida Dati.
Il est à craindre que l'histoire ne retienne que le premier des exploits de ces JO, l'impréparation, le désordre et la saleté de Paris. Or, la réussite de ces Jeux passe par des stades pleins. Il faut que Paris attire. Pour cela, il faut des rues propres, des territoires accueillants, vivants, en toute sécurité. Tout le contraire de ce que nous vivons depuis 2014. Paris, c'est moins vite, moins beau, moins propre, moins sûr. L'inverse de la devise des Jeux, plus haut et plus fort. Comme les Parisiens, vos amis le savent, mais n'osent pas encore le dire publiquement, votre bilan est désastreux.
Et bing!
Un extrait gentil, hein.
On a pris un extrait sur les JO.
Ah oui, parce
qu'on était sur les JO.
Les échanges Rachida Dati et Anne Hidalgo, ça peut être d'un niveau beaucoup moins élevé. Et elle s'envoie des choses absolument dingues.
Mais là, maintenant, elle se parle mieux depuis que Rachida Dati est ministre de la Culture.
Vous avez vu comment Anne Hidalgo a accueilli la nomination de Rachida Dati.
Au dernier Conseil de Paris, en fait, elle est arrivée. arrivée, voilà, elle est, ouais, on est d'accord, elle est arrivée en retard, la ministre de la Culture, et bon, il y a eu une petite pique aussi d'Anne Hidalgo en spécifiant qu'elle n'était pas là, malheureusement, et qu'elle ne pouvait pas bénéficier de ses félicitations, mais on trouvera que les choses s'étaient faites plutôt élégamment, non ?
Ouais,
Premier Conseil de Paris après l'élection.
Je trouve que le spectacle politique, parce que là c'est vraiment du spectacle politique, oui, au Conseil de Paris, a quand même pas été toujours d'un très très grand niveau.
Ouais.
Là, il y a peut-être une remise à niveau, effectivement, parce que Rachida Dati est devenue ministre, mais c'est pas toujours...
Bon, il y a des échéances, en tout cas en 2026, hein.
Ah bah oui, ça voilà, c'est clair, et c'est et déjà engagé, la nomination de Rachida Dati est faite pour ça, ou en tout cas elle a accepté le poste pour ça, et Emmanuel Macron pense aussi aux élections à Paris, et l'avantage de la nomination de Rachida Dati, c'est de pouvoir mettre ce qui semblait impossible jusque-là, de pouvoir mettre les Républicains et le camp présidentiel ensemble, pour battre Anne Hidalgo. C'était inconcevable avant la nomination de Rachida Dati.
Alors, on va se retrouver dans un instant. Que va-t-il se passer d'ici 2026? Eh bien, vous aurez la parole, messieurs. On imagine déjà l'affiche, hein? Ça va être rock'n'roll. Pas sûr. Ok, on en parle tout de suite.
Et sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection, encore à la dernière élection. Et je lui donne la parole. Merci Madame Rachida Dati. À vous la parole.
Merci. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Hein. Voilà. Ça, c'est votre bilan.
Ça fait 20 ans que vous perdez toutes les élections. C'est vraiment dommage
pour votre nom. Toujours battu sur votre nom. Ça, ça vous collera à vie.
C'est bon, vous êtes satisfait, Olivier Boss, ça vous va, là, ce genre de petites...
Mais c'est pas un beau spectacle,
les
franchement.
Les petits échanges entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Mais vous comprenez que ça passionne...
Non, mais ça amuse, c'est comme quand Rachida Dati venait aux soirées électorales et désinguait absolument tout le monde. Ça, c'est le succès assuré, le spectacle assuré. Je trouve que... Là, c'est parce que j'aime trop la politique, mais je trouve qu'en matière politique, c'est pas brillant.
Elles étaient proches quand même à une époque comme c'était ligué contre Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça les avait rapprochées.
Oui, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ça peut créer des alliances de circonstances. Puis leurs deux caractères peuvent s'entendre. C'est pas chien et chat, c'est chien et chien. Donc évidemment, c'est deux mordantes, donc ça peut aller. Enfin, quand même, ça ne les réconciliera pas. Moi, je pense qu'elles sont toutes les deux affaiblies en ce moment. Je pense que Rachida Dati s'affaiblit en faisant le pari de passer par le gouvernement pour une hypothétique majorité Renaissance LR à Paris. Résultat, chez Renaissance, quand on entend Clément Beaune, c'est non, pas question. Chez les LR, il y a déjà un groupe dissident derrière Francis Piner, pas nombreux, mais enfin quand même, c'est le début de quelque chose. Elle l'a plus divisé qu'elle n'a rassemblé. Par ailleurs, je pense que les Parisiens sont pas dupes aussi de cet opportunisme électoral, et je ne dis rien de l'avenir judiciaire éventuel pour Rachida Dati. On verra ce que les juges décident. Quant à Anne Hidalgo, elle est très affaiblie quand on voit les sondages. La sociologie reste de gauche à Paris, mais je pense qu'un Yannick Jadot est mieux placé aujourd'hui qu'Anne Hidalgo pour incarner à la fois la nouveauté et la continuité et reprendre le relais de cette transformation écolo-socialiste ou socialo-écologique de la ville.
Mais ce qui est dur, c'est que même son premier adjoint que personne ne connaît, Emmanuel Grégoire, qu'elle ne propulse pas pour l'instant comme l'avait fait Bertrand Delanoë avec elle, même lui, Emmanuel Grégoire, est au-dessus en intention de vote, ce qui en dit très très long sur la dégradation de son image.
Par ailleurs, l'extrême gauche monte, bravo Anne Hidalgo, et l'extrême droite qui avait toujours était absente de Paris, monte aussi à Paris. Bravo Rachida Dati.
Sauf qu'avec le mode de scrutin, s'il change pas, ça, pour le coup, ça n'aura pas d'influence.
Non. Mais s'il change, avec la loi PLM, qui devrait bouger Paris-Lyon-Marseille, si les Parisiens votent en 2026 avec une seule liste, avec leur maire de Paris à la tête de cette liste, plus une deuxième liste pour leur maire d'arrondissement, ça va changer complètement l'ambiance de la campagne.
Est-ce qu'il y a une possibilité pour Anne Hidalgo de transformer les choses à 2 ans justement de la prochaine course à l'hôtel de ville de Paris?
Il va se passer tellement de choses dans la politique nationale d'ici 2 ans, il y aura des résonances. Regardez comment la Macronie était irrésistible en 2017, 18, 19, et puis c'était explosé en vol à l'approche des municipales. Sans compter que les dernières municipales se sont passées dans le cadre de la Covid. Pourquoi il n'y aurait pas un autre événement de ce genre? On ne sait pas.
Et le macronisme local, aux dernières élections municipales, n'avait pas fonctionné. Ça n'avait absolument rien donné. Ouais. Il n'est pas aujourd'hui beaucoup plus défini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire Anne Hidalgo, elle fait de l'écologie, elle fait du social. Vous pouvez dire que Rachida Dati, ce qu'elle voudrait faire de Paris, moins sale, etc. qu'est-ce que veut faire un candidat, ou même derrière Rachida Dati, le camp d'Emmanuel Macron, ça reste impossible à définir. Donc cette élection municipale est bien plus ouverte, surtout que si vous prenez le total de gauche, il n'est pas très loin du total de droite, même si Rachida Dati a des très bonnes intentions de vote, ce qui fait que ce n'est pas du tout une élection écrite, vraiment pas.
Anne Hidalgo s'était présentée en 2022 à la présidentielle. Mmh. Voilà.
Elle a eu 75%.
Christophe Barbier, tête de Christophe Barbier. Alors, avec un succès tout relatif, 1,75% des suffrages devant Poutou, derrière Fabien Roussel, est-ce qu'elle pourrait avoir d'autres ambitions encore, ou est-ce que vous pensez que cette expérience douloureuse à la présidentielle a douché ses rêves plus grands?
Pour ce que j'ai pu en ressentir en parlant de cela avec elle, elle n'a pas renoncé. Elle n'a pas renoncé du tout, elle considère
c'est bien
que
elle,
le match pour 2027 est totalement ouvert à gauche et qu'il ne faut pas l'enterrer parce qu'elle a réalisé mais cette contre-performance.
Est-ce que ce n'est pas cette ténacité aussi qui va faire qu'elle y arrivera, quoi, enfin, c'est...
Bah, ça fait déjà aujourd'hui, cette ténacité fait déjà qu'aujourd'hui, on ne se pose même plus la question de savoir si elle sera candidate en 2026. Ouais. Ce qui en dit déjà long, parce qu'il n'est pas du tout évident qu'elle soit candidate et elle ne l'a pas pour l'instant dit. Alors après, avec Anne Hidalgo, il y a la ténacité et il y a tout ce qu'elle a pu dire et fait le contraire, c'est-à-dire qu'elle elle avait dit qu'elle ne serait jamais candidate à la présidentielle, elle avait dit qu'elle n'augmenterait pas les impôts, elle avait dit qu'elle ne voulait pas des JO, enfin la liste est longue, donc elle est en la matière tenace et imprévisible.
Vous qui la connaissez en tant que journaliste, éditorialiste, politique, elle est sympa? Moi, on m'a dit qu'elle était hyper agréable.
Très chaleureux avec elle. Ouais. Très chaleureux, assez franc, riche aussi de ce qu'elle est. Son parcours personnel, arrivée en France, adolescente, enfin enfant, naturalisée, tout ce combat pour trouver sa place dans un pays nouveau, une société nouvelle, sa relation aussi à la culture, aux arts. Je trouve que sa personnalité est extrêmement riche et beaucoup plus faiseillante que la femme politique, qui, elle, est un peu un bloc de granit.
Ouais, beaucoup de culot, pas beaucoup de doutes. Parfois un rapport avec la vérité dont on pourrait discuter. Quand on parle, on l'interroge sur son bilan ou autre. Il y a parfois, c'est pas toujours simple. Elle est sympathique, mais c'est pas franchement simple.
Bon, eh bien, on restera là-dessus.
Elle va pas venir au grand jury très vite.
Bah nous, on la salue, on aimerait beaucoup la recevoir dans cette émission.
L'invitation est relancée parce que on la relance régulièrement.
Bah moi aussi, je la lance, l'invitation, figurez-vous. Est-ce que je vais pas l'obtenir avant vous? Ah bah non, pas du tout. Je trouve qu'on a essayé d'être les plus objectifs possibles. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas si Anne Hidalgo viendra vous voir sur scène, mon cher Christophe Barbier, mais en tout cas, elle est la bienvenue au Théâtre de Poche Montparnasse pour vous voir tous les lundis à 21h avec Mozart, mon amour. Je cite aussi vos ouvrages aux éditions Fayard, on a Le Peuple des Colères et puis le prochain Jean-Luc M chez Grasset. On se demande bien de qui vous parlez, Jean-Luc M. Vous viendrez nous en parler, ça prendra quelques jours.
Chez Grasset, Studio Fact Edition, parce que c'est moitié pièce de théâtre, moitié éditorial. Quel personnage, Mélenchon. Hein.
Vous viendrez justement nous en parler dans cette émission. Olivier Bost, on vous écoute, évidemment, dimanche, de midi à 13h, dans le Grand Jury, RTL, Le Figaro, M6. À bientôt, donc, dans le parking à vélo d'RTL. Voilà, merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoulin, Bastien Robin et Nicolas Godet pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Ciao. We'll be right back.